Il est tard. On a déjà vécu beaucoup, beaucoup de choses avec le Seigneur. Et je crois qu'il faut qu'on se positionne dans la foi. Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir à travers sa parole, maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un message et puis on emmagasine pour éventuellement ressortir ça plus tard, parce que peut-être que plus tard on en aura besoin. Non. Il y a la parole de Dieu, elle est absolument vivante, agissante, percutante au moment où elle est délivrée. Vous voyez? C'est une autre dimension. Alors ça nous rend plus actifs et plus vivants et plus présents, parce qu'on dit hey, « Oh Seigneur, t'es là ?» Il est là, hein, on est d'accord. Il est là, sa parole est là, il agit et veut agir, comme il agit tout le culte, il agit maintenant. Vous voyez? C'est le kairos de Dieu, c'est maintenant, tout de suite, à présent. C'est pas « Je m'engagine un message de plus parce que je mets ça dans un tiroir parce que peut-être ça va resservir plus tard dans ma vie. » Non, 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 c'est pas ça. C'est maintenant, tout de suite, là, il agit. Vous voyez? Ça change. Alors, on va peut-être prier pour qu'on soit de nouveau actifs après tous ces temps qu'on a vécu, là. Peut-être en nous, il y a une petite voix qui dit « Hey, c'est bientôt midi !» Le français moyen, tu sais, « Hey, c'est midi !» Pop, 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 stop. Petite voix française, tu te tais. D'abord, t'es français renouvelé, c'est plus pareil. Dans le midi, ça se calme. Seigneur, on t'apporte ce temps et on place ce temps sous la puissance de ton sang. Tu es un Dieu de rencontre, un Dieu du présent, un Dieu qui vient rencontrer ton peuple, qui vient lui parler. Alors merci pour la puissance de ta parole, la fécondité de ta parole, l'efficacité de ta parole, et qu'elle fasse son effet maintenant dans nos vies, dans nos âmes, dans tout notre être. Parce que ta parole, elle est extrêmement perçante et elle ne revient pas à toi sans effet. Alors viens déboulonner tout ce qui n'est pas en accord avec ta parole, viens percuter tout ça et on te donne le droit, Saint-Esprit, d'ébranler de tout ce qui n'est pas en accord avec toi, au nom de Jésus. Viens, mets-nous alerte, Seigneur. Saint-Esprit, tu prends toute la place, que le reste de nos personnes se tiennent à carreau. Saint-Esprit, tu te lèves et tu prends toute la place maintenant, au nom de Jésus. Qu'on soit alerte et zélé et fervent en esprit. Amen. Amen. Alors donc, le message, enfin, il fallait parler de Pourim. Alors, Pourim, c'est une fête, vous savez, c'est une fête dans la Bible. Alors, c'est pas une fête de l'Éternel, comme les grandes... Alors, c'est quoi les trois grandes fêtes de l'Éternel, quand même? Révision. Je suis une prof, hein, alors il y a une déformation professionnelle très forte, là. Les trois grandes fêtes. Pessah. Mais Bénédicte, c'est une très, très bonne élève. Après. Pessah. Très bientôt, hein, Pessah. Après. Non, mais avant, dans chronologiquement, il y avait Pessah. Après. Oui, c'est ça, Shavuot, la Pentecôte. Et après, les tabernacles. Et puis aussi, on a Hanouka en décembre, et puis là, maintenant, on va avoir Pourim. Donc Pourim, c'est pas comme les trois grandes fêtes où on montait à Jérusalem et tout, c'est une fête différente. D'ailleurs, c'est pas dit que Dieu a dit qu'il fallait toujours la fêter, je pense pas, mais c'est une fête quand même qui est fêtée depuis 2500 ans à peu près, 2400-2500 ans, elle est fêtée tous les ans par les Juifs, du monde entier. Alors c'est quelque chose, hein, c'est... Alors, les fêtes juives, on est en pleine greffe. Hein, vous savez que notre église, l'église de France, est en pleine greffe sur l'olivier franc. Et c'est vrai qu'il y a une sève extrêmement nourrissante dans l'olivier franc. Tous ceux qui sont allés en Israël, ils savent. Hein, on est revenus revivifiés, remplis de sève. Donc, il y a une sève dans les fêtes juives. Et en plus, il y a beaucoup plus que... Enfin, c'est une dimension. Chaque année, on les fête. Et chaque année, on découvre d'autres facettes. C'est sans fin, c'est inépuisable, c'est énorme les fêtes juives. Hein. Alors j'ai un petit livre, j'en ai acheté quelques exemplaires tellement il est bien, pour ceux qui sont intéressés, j'en ai quelques exemplaires. L'appel irrévocable d'Israël, et ça nous parle de l'ampleur, l'impact phénoménal des fêtes juives. Alors je vous lis juste un petit extrait pour vous dire, je prends une fête au hasard, une fête qui vient toutes les semaines, Shabbat. Toutes les semaines ça vient, alors c'est pratique. Hein. Shabbat, en fait, c'est énorme la puissance. C'est juste pour vous donner envie, pour dire que toutes les fêtes, c'est comme ça. Hein. Par exemple, Shabbat. Shabbat, quand on fête Shabbat, on proclame que Dieu est le créateur. Il s'est reposé après son acte de création. Donc ça veut dire que le monde, quand on fête Shabbat, on proclame, on prophétise, on proclame que le monde n'est pas le produit du temps, plus du hasard, plus de la matière, comme le dit l'évolution. Il n'est pas le produit d'une force panthéiste vague, inconnaissable. Il n'est pas le produit des dieux de la nature. Le Shabbat est un témoignage du Dieu créateur et il libère de la puissance en vue d'amener la confession universelle de la seigneurie d'Elohim sur toute la terre. C'est puissant ça. Hein. Donc quand on fête Shabbat, quand on se relie avec le peuple juif dans cette dimension-là, C'est un exemple, hein, Shabbat, c'est la fête hebdomadaire. On libère de la puissance en vue d'amener la confession universelle de la seigneurie du Dieu créateur sur toute la terre. On prophétise ce temps où la terre entière reconnaîtra le créateur. Donc c'est puissant. Ça, c'est une petite dimension. Alors vous avez la même chose, Pessah, une dimension fabuleuse, Shavuot, Sukkot, c'est des dimensions planétaires, si vous voulez. Quand on fait ça, on libère de la puissance en vue d'amener le règne planétaire du Seigneur. Et Pourim, dans tout ça, ben, il y a aussi une dimension planétaire. Et on va la découvrir, parce que Pourim, c'est aussi, quand on se greffe sur l'olivier franc et quand on fête Pourim avec les Juifs, eh ben, ça libère aussi de la puissance. Et quand on le sait, quand on le fait en connaissance de cause, ah ben, ça libère encore plus de puissance. On le fait dans la foi. Et en plus, on l'a fait dans la foi en Jésus. Donc voilà, libération maximale de puissance. Et on coopère avec l'Esprit de Dieu pour avancer son plan dans le monde. Alors, donc Pourim. Tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire du livre d'Esther, en gros. Il y a eu des messages fabuleux quand même, c'est tellement riche ce livre d'Esther, il y a eu des messages de luxe, Mardoché, la sagesse de Mardoché, pour ceux qui se rappellent. Pierre d'Almartin aussi, il a prêché sur Mardoché. Et puis, plus récemment, et je vais surtout me baser là-dessus, il y a eu un message très très percutant, très fort de Alfredo. Alors, le dimanche 26 septembre 2010, je pense que c'est dans les messages diffusés sur les ondes là, un message très fort d'Alfredo, et je crois qu'il est encore très 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 actuel ce message. Donc je vais reprendre certains éléments. Donc le livre d'Esther, c'est une confrontation entre qui et qui ? Entre les Juifs et non, pas Babylone, pas du tout, du tout. Non, 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 non. Et un méchant, méchant. Les Juifs, ils font ça. Hein, c'est Aman. Aman, voilà. Alors, Aman, normalement, je devrais taper des pieds à chaque fois que je prononce le nom, mais c'est bon, on fera ça plus tard pour les kinés. Donc, Aman, il descendait de qui, Aman ? Ah ah ! Ouh là là, il faut lire le livre d'Esther. Hein. Aman, il descend d'un méchant, 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 méchant qui s'appelle. Alors, vraiment très méchant. Il s'appelle. Amalek. Amalek. Alors là, lui, je devrais aussi taper des pieds. Alors, Amalek, il descendait de qui, lui ? Encore un méchant. Alors, le méchant, je vous fais deviner, ce méchant-là, il a préféré un plat de lentilles à la bénédiction du... Voilà, voilà. Donc, Amalek, il descend d'Ésaü. Hein. Alors, Ésaü, c'est le type... Ça nous concerne, hein, tous c'est des types hein, de personnes qui nous... Ça nous concerne de près. Alors, Ésaü... C'est, hop, il représente quelque chose, et ça nous parle à nous aussi. Ésaü, c'est le profane, c'est celui qui méprise la bénédiction divine, c'est celui qui est dépourvu de foi et d'intérêt spirituel. Voilà, ça c'est Ésaü. Et Amalek, c'est donc son descendant. Alors Amalek, il représente autre chose. Alors quand est-ce qu'on le voit apparaître pour la première fois Amalek ? On le voit dans Exode 17. Tu peux le projeter, Déborah ? Exode 17. Exode 17, verset... regarde le verset 8. Voilà. Alors, verset 8, on voit tout à coup surgir Amalek des profondeurs du désert. Israël est sorti d'Égypte, ils sont nés de nouveau, ils ont passé la mer Rouge, ils sont débarrassés d'Égypte. Et puis, bizarrement, subitement, comme ça, après un chapitre entier... Et Amalek surgit. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Mais juste avant la venue d'Amalek, il y a autre chose. Il y a un chapitre entier de râlerie à la française. Le peuple d'Israël, il râle, il murmure, il n'est pas content, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Et le verset qui précède la venue d'Amalek, tu peux mettre juste avant, le 8, le 7, juste 7, voilà. Ils avaient tenté l'Éternel, les Juifs, en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Question. Alors, ce n'est pas une question, vous savez, il y a des questions que Dieu aime bien. Il aime qu'on l'invoque, qu'on lui pose des questions pour essayer de comprendre. Non, non, ça, ce n'est pas une question comme ça. Hein. C'est une question de doute, une question d'incrédulité. Donc, Amalek, en fait, c'est la chair. Juste après, il y a Amalek qui surgit, comme ça, du néant. Amalek, c'est la chair qui veut être indépendante de Dieu, autonome. C'est la chair qui refuse le fait que Dieu soit pleinement impliqué dans l'histoire humaine. C'est la chair qui refuse la providence. C'est la chair qui veut supprimer toute manifestation concrète, physique, historique de l'action permanente de Dieu dans le monde. C'est ça, Amalek. Amalek, en fait, ça veut dire peuple qui dévore. Et Alfredo nous disait que Amalek, c'est la chair qui dévore la nature de Dieu en nous et qui veut nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Ça, c'est Amalek. Et vous remarquez qu'elle vient juste après une mise en doute. Dieu est-il au milieu de nous ou pas ? Là, en ce moment même où je parle, est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là ? Est-ce que vous avez ce doute fondamental qui est lié à Amalek ? Alors, les commentateurs juifs, pareil, ils ont bien cerné la chose avec Amalek. Et alors, j'ai apporté, les commentateurs juifs, ils nous disent, parce qu'ils ont potassé la Bible pendant des milliers d'années, alors ce serait bien que parfois les chrétiens en mettent un peu le nez dedans. Amalek, voilà. Et vous savez que Amalek, c'est un mot hébreu. Ça a la même valeur numérique qu'un autre mot hébreu qui veut dire le doute. Le doute. Amalek, c'est la chair en nous qui doute. Il représente l'homme qui se veut libre, qui rejette Dieu. Il représente cette liberté de l'homme de dire que tout vient par hasard. Vous remarquez qu'Amalek, c'est celui qui jette le sort. C'est celui qui se confie dans le hasard. Et on voit qu'Aman tire au sort le choix du jour et du mois de destruction des Juifs. Il s'en remet au hasard. Donc Amalek, il ne supporte pas que Dieu s'occupe de l'homme. Je rappelle, par exemple, le philosophe Voltaire, il croyait tout à fait que Dieu était le grand horloger qui avait créé... Voltaire ne pouvait pas admettre que Dieu continue à s'occuper de l'homme. Amalek, c'est celui qui veut dissocier le nom de Dieu. Il refuse que le monde d'en bas, le monde terrestre, soit le reflet du monde d'en haut. Il refuse cette unité, cette réconciliation entre les deux. Il ne veut voir que la nature superficielle du monde et non sa nature profonde. Il déconnecte les choses de leur signification profonde. Donc c'est fort, Amalek. C'est une tendance de notre chair puissante pour refuser une totale unité de nous avec Dieu. Vous voyez, c'est l'homme autonome, l'homme qui veut faire son truc à lui. Ça, c'est Amalek. Donc, et curieusement, il apparaît juste là, dans Exode 17, il apparaît pas avant, et Dieu dit tout de suite, il faut que le nom d'Amalek soit effacé de dessous les cieux. Il faut que ce soit effacé. Alors que l'Égypte, qui a pourtant fait des grosses misères à Israël, Dieu n'a jamais demandé que l'Égypte soit effacée. L'Égypte, elle sera là au millénium, elle sera bénie, elle sera là, l'Égypte. Amalek, si, il faut qu'il soit absolument effacé. Et puis, à un moment donné, on demande la destruction totale d'Amalek, homme, femme, enfant, enfin, c'est radical. Amalek, c'est la chair. Alors, vous avez aussi, vous savez qu'Israël représente l'action de Dieu actuellement dans notre terre. Et qui c'est qui veut... Vous savez qu'Israël, donc, ça représente justement que Dieu est impliqué dans l'histoire humaine. Et il y a des forces qui ne supportent pas qu'Israël existe. Vous savez très bien. Hein. Et curieusement, au moment où je vous parle, 2012, on a l'État iranien qui veut absolument... Je parle de l'État, hein, pas du peuple. L'État iranien veut absolument supprimer Israël de la carte. Et curieusement, Suze, l'histoire, le moment où se passe Esther, Aman vivait à Suze, Aman vivait en Iran. Hein. C'est l'Iran actuel, Suze. Mais vous voyez, ces forces de destruction, on ne supporte pas que Dieu soit manifesté, concrétisé dans l'histoire du monde. Et vous avez des tas de forces, Hezbollah, Hamas, Iran, qui veulent supprimer Israël de la carte. Parce que Israël vit dans le naturel, ce que nous, enfants de Dieu, on vit dans le spirituel. Notre chair, elle ne veut pas qu'on rentre dans notre destinée spirituelle. On a ce combat. Donc Amalek, c'est cette chair. Donc vous connaissez la suite. Après, quand même, ça se termine bien. Amalek, il est complètement défait par Moïse, par l'armée de Josué. Et il y a une confrontation avec Amalek. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, la confrontation avec Aman ? Alors, la chair, qu'est-ce que c'est que la chair ? On dit, c'est notre nature pécheresse. Mais la chair, c'est tout ce qui, en nous, qui manifeste cette autonomie, cette insolence, et tout autour de nous, il faut dire que tout autour de nous, dans notre culture, dans notre histoire familiale, personnelle, tout ça manifeste l'insolence de la chair. Aman, dans l'histoire d'Esther, il est extrêmement arrogant, il est insolent, il se pavane, il est tout content qu'on lui donne des honneurs. Vous voyez, ça, c'est la chair. Elle attire l'attention vers elle, elle veut tout pour elle, et elle veut les honneurs, et elle veut moi. Ça, c'est la chair. Et en même temps, avec la chair, vous avez ce profond sentiment de condamnation, de culpabilité. Ça va avec la chair aussi. Et quelque part, c'est aussi au fond de nous. Dans notre âme, tout au fond, on a cette angoisse, on a ce sentiment de culpabilité, on a ces craintes, ces angoisses. Alors j'ai apporté Pour les visuels, parce qu'on a eu un séminaire, on parlait des trois types, vous savez, visuel, auditif, il faut s'occuper des trois, c'est très important, on nous a expliqué ça, les kinesthésiques, ceux qui ont besoin du mouvement. Alors pour les visuels, j'ai amené une représentation qui pour moi personnifie la crainte. La crainte, c'est une facette de la chair, mais qui est très présente, je trouve. Elle est dure à mourir, celle-là, la crainte. Alors, en fait, c'est un tableau de Caravage. C'est un tableau de Caravage, c'est pour les visuels parmi nous. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit ? Ça, c'est la crainte. Bon, c'est une tête de méduse. Tout le monde voit ? C'est pas du tout revigorant. Et, non, c'est une tête de méduse. Vous voyez, c'est la crainte. Elle a à la fois très peur et en même temps, elle est extrêmement agressive. La crainte, elle rend agressif. Et puis, si vous regardez bien, les cheveux là-dessus, vous savez ce que c'est, les cheveux ? Oui, pardon. Ça, c'est une tête de méduse, mais en fait, on pourrait dire aussi une tête de furie. Les furies, c'est les déesses de la vengeance en Grèce. Donc, si vous voulez, c'est une tête à la fois horrifiée et agressive. Vous voyez cette colère, cette haine, cette rage, beaucoup liée à la peur. Et au-dessus, alors, est-ce que vous voyez les cheveux, ce que c'est, les cheveux ? C'est encore plus terrible, c'est encore plus ignoble, immonde. C'est des serpents, voilà, c'est des serpents. Qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Donc ça, c'est tout ce qui est condamnation, accusation, culpabilité, c'est là-dedans que ça se passe. Hein. C'est pour ça que c'est des serpents. Les Grecs, ils comprenaient beaucoup de choses. Ils disaient plein de choses vraies, hein, les Grecs. Sauf qu'ils disaient toutes les choses vraies, mais pas la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une solution. Donc eux, pour ça, c'est tellement terrible, la pensée grecque. Parce qu'il y a beaucoup de choses vraies. Donc, effectivement, vous avez toutes ces pensées de crainte qui sont là. Des serpents qui sifflent et qui sont là. Et je pense que, normalement, si vous êtes honnête, vous savez très bien qu'ils viennent souvent siffler à vos oreilles ou sur votre tête. Non ? Les serpents, la crainte, ou l'accusateur, ou la condamnation. Ça remonte des profondeurs de notre âme, et puis c'est là. Bon, c'est pas beau du tout. Hein. D'ailleurs, c'est encore plus... Alors, c'est du Caravage. Hein. Alors, je vais faire quelque chose qui va beaucoup choquer ceux qui aiment la peinture. C'est du très bonne peinture, mais c'est plastifié. Donc, on va dire que... Quelle est la place des serpents pour nous ? Elle est où, la place des serpents ? Elle est sous nos pieds. Alors, ça vous... Bon, c'est du Caravage, OK, mais je mets sous les pieds quand même. D'accord, ça vous va ? Voilà. Après, je... Voilà. Après, quand on fera un man... Voilà, donc ça, c'est la place de nos craintes. Et je peux vous dire, cette crainte, je ne sais pas si... C'est une facette de la chair, il y a beaucoup, beaucoup d'autres facettes. Mais je vous le dis parce qu'il y a une angoisse. Et en plus, c'est dans notre culture, l'angoisse. Un petit exemple, il y a 2 jours, je vais prendre de l'essence. Je vais à une 24-24. Je sors ma carte, puisqu'il faut la mettre avant, vous savez, pour prendre l'essence. Plus de carte. Plus de carte. Et alors, en une seconde, j'ai eu droit au scénario catastrophe. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Un scénario catastrophe avec une rapidité phénoménale, avant que j'aie eu le temps de dire ouf, pion ! Alors, je ne détaille pas scénario catastrophe, mais j'en ai vu toutes les couleurs en une seconde. Hein, c'est hyper rapide, ça, ce truc-là, hyper rapide. Bon, alors ce qui est bien, c'est quand même, l'esprit est là, heureusement. C'est pour ça que c'est très important de nourrir l'esprit, pour lui donner beaucoup de force. Alors j'ai pris mon épée de l'esprit, et j'ai dit, le juste, en plus, je la connais bien ce verset, parce que avec tous les recommandés qu'on a à Rock, j'ai appris à bien manipuler cette verset. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il est fait, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc je, et j'ai eu l'impression d'avoir, vous savez, visuellement, ce gros bouclier de la foi. Là, pom, toc, j'avais mis le bouclier de la foi. Et puis effectivement, à la fin de l'histoire, c'est que ma carte bancaire m'attendait très sagement dans la boutique où j'avais fait mon dernier achat. C'est tout bête, hein. Bon, ça, c'est une petite histoire, mais pour vous dire que le cinéma, là-dedans, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Bon, et bon, je pense à Laetitia aussi. Bon, bref. Bon, ça, c'est amusant. En 10 minutes, c'était réglé. Il y a des choses beaucoup plus grandes. Parce que, si vous voulez, il y a la chair, OK, il y a en nous toutes ces expériences négatives qu'on trimballe dans notre âme. Vous savez que notre âme, elle a franchement besoin d'être évangélisée. Parce que l'esprit... Il est très alerte. Ah oui, ça va très très bien l'esprit. Il est des nouveaux, il est vivant. Mais l'âme, avec toutes ses chambres, dont certaines sont toutes noires et remplies de toiles d'araignée, avec des petites bébêtes qui font peur. Donc, on doit évangéliser notre âme. Ça vous fait drôle comme concept ? Parce que sinon, notre âme, elle est pleine de fils d'Amalek qui demandent qu'à sortir le bout de leur nez pour nous étriper. Donc, il faut les tuer. Dans le livre d'Esther, le roi a fait pendre Aman, mais c'est Esther qui a fait pendre les 10 fils de... En plus, ça prolifère, hein. Les 10 fils d'Amalek, c'est Esther qui les a fait pendre. C'est les Juifs plutôt qui les ont tués. Vous voyez, on a leur notre part à faire. On doit détruire les œuvres de la chair. Bon, ça, c'est un premier aspect. Et en plus, bon, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment, vraiment des décrets de mort sur nous. Et oui, c'est pas... Alors, il y a à la fois notre âme avec toutes ces expériences qui fait que, hein, on a des scénarios dans la tête, mais aussi on a des vraies circonstances qu'on doit affronter, des circonstances de mort. Et là, j'ai Patrick en face de moi, hein, Timothée, il y a quelques mois, c'était vraiment... Il y avait un décret de destruction sur sa vie, réellement. Et il fallait se battre, il fallait proclamer la vie, et on l'a fait tous ensemble encore, et puis on a une belle victoire, même qu'il a une plus belle voiture qu'avant. Hein, Patrick ? Beaucoup plus belle voiture qu'avant. Bon... Ce que je veux dire, c'est qu'on a un vrai combat à mener. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Il y a un vrai accusateur. Alors, si on prend le fameux verset, l'accusateur, il se tenait devant les frères jour et nuit, il les accusait. Et puis, il y a des décrets de mort, il y a des décrets de destruction, c'est vrai, sur notre santé, sur nos finances, sur nos familles, sur notre école. On les voit, il y a, ça, c'est la vérité. Ce qu'on voit avec l'Iran qui veut la peau d'Israël... Eh bien, c'est vrai, il y a des plans de destruction réellement fomentés par l'ennemi. Et en plus, il y a notre chair en nous qui dirait presque oui, amen, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, alors je vais faire un jeu de mots. La chair, elle veut notre peau. Vous me suivez? Ouais, c'est beau, hein. C'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Voilà, donc... La chair, elle veut notre peau. Mais nous, l'esprit en nous est beaucoup plus fort que ça. Seulement, il faut prendre des armes, mes amis. Il faut prendre des armes. Alors, ils l'ont vaincu, trois choses, par le sang de l'agneau. Le châtiment, il est déjà vécu. Jésus a pris le châtiment. Pourquoi on est encore coupable? Qui accusera les enfants de Dieu? Le sang est versé, c'est fait. Même si la planète entière est pleine d'angoisse, de culpabilité, d'accusation, pas nous! Et pas ceux à qui qu'on doit évangéliser, parce qu'eux, ils sont aussi sous l'angoisse, la culpabilité. On n'est pas sous la culpabilité, c'est fini cette histoire. Et l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte, elle suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors ce verset-là, je peux vous dire, on doit évangéliser les profondeurs de notre âme avec ça. Hein. Une fois, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas en moi, Seigneur? Les craintes. Ah, oui, d'accord. Regardez le coup de la carte bancaire. Donc on doit vraiment s'aligner. Le châtiment, on n'a plus de châtiment pour nous. Il n'y en a plus, c'est fini. Jésus a pris le châtiment. Donc il faut vraiment que ça... Et puis le don de la justice quand même, ça fait 3 ans maintenant. Hein. Attention, 3 ans qu'on le travaille, ce don de la justice. On est juste. On n'a plus de vêtements, d'accusations. C'est fini ça, il faut vraiment... on enlève les vêtements sales, on est la belle robe de justice. Il faut que toutes les parties de notre être soient évangélisées avec ça, quoi. Donc ça, c'est, on l'a vaincu par le sang de l'agneau. Et après, ils l'ont vaincu par, deuxième chose, la parole de notre témoignage. La parole. Alors la parole, elle est très efficace quand elle est dite. Alors la parole, je vous propose, on va, avec Déborah, on va évangéliser notre âme, celle qui est toujours dans la crainte, etc. On va l'évangéliser avec des versets, c'est la parole hein, qui renouvelle notre intelligence. On dit souvent, on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On prie, hein, ça. Oui, mais je pose la question, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Comment on la connaît, la volonté de Dieu? Parce que prier qu'elle se soit comme sur la terre comme au ciel, c'est bien, mais si on ne la connaît pas. Et comment on la connaît? Eh bien, c'est Romains 12, soyez transformés, métamorphosés, dit le grec, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc si on n'est pas renouvelé dans l'intelligence, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Et donc on ne peut pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisqu'on ne la connaît pas, cette volonté. Et comment on connaît la volonté de Dieu? Comment on renouvelle notre intelligence? Par l'eau de la parole. Eh oui. Et l'eau de la parole, c'est très efficace quand on la parle. Alors on va dire quelques versets. Peut-être vous les connaissez, ces versets. Mais on va quand même les lire parce qu'il faut vraiment que ça descende au fond de nous, dans les chambres noires des craintes, des inquiétudes, des angoisses. Alors, un verset qu'on connaît par cœur, mais je suis sûre qu'il y a des zones de l'âme qui ne connaissent pas encore. Jérémie 29, 11. Tu peux le dire. On va le dire tous ensemble. Tous ensemble. Ah non, Jérémie 29, 11, voilà. Jérémie 29, 11. Je connais, on peut le dire tout ensemble, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, dès qu'il y a un scénario catastrophe dans vos têtes qui arrive, par exemple, du genre, ma vieillesse, je la sens très mal, je vais être dans un... Enfin, bon, je ne dis pas les scénarios catastrophes qu'on peut avoir, vous savez. Je ne dis pas. Donc, on peut avoir des tas de scénarios catastrophes, mais prenons la parole de Dieu. Non, Seigneur, ce n'est pas vrai du tout. Tu connais les projets que tu as pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Tu me donnes un avenir et de l'espérance. Et ça, mes amis, il faut le dire et le redire et le redire jusqu'à ce que ça soit nous, vous voyez. Ce soit dans notre disque dur, mais alors intégré, voilà, que tout le logiciel soit... Ce soit ça, vous voyez ce que je veux dire. Et que les logiciels scénarios catastrophes, on les met... corbeille, et on clique corbeille, on vide la corbeille, il n'y en a plus. Vous voyez ? Il n'y en a plus. Il faut que quand on voit des films catastrophes à la télé, ça n'ait plus aucune résonance en nous. Il y en a 2012, oh là là, scénario catastrophe. Alors, évidemment, ça a une résonance. Les gens sont morts de peur et d'angoisse et tout ça. Évidemment que ça résonne. Mais nous, ça ne devrait pas résonner. C'est pour ça que je déteste les films qui finissent mal, parce que c'est... Ah non, je ne supporte pas, parce que c'est pas nous, c'est pas nos gènes. À chaque fois, je dis, il finit bien, ton film. Bon, enfin bon. Après, un deuxième verset... Psaume 57, 3. Alors là, on va le dire aussi. Psaume 57, 3. Tu l'as ? Voilà. Ah, non, ce n'est pas celui-là. Désolée. Moi, c'était « Il mène tout à bonne fin pour moi ». Non, c'est pas. Je ne sais pas si c'est un... Regarde voir. Hein ? Oui, mais non, mais non, en fait, c'est mal traduit. C'est « Il mène tout à bonne fin pour moi ». On peut le dire en changeant. Hein. « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi ». Vous voyez, on peut le dire avec cette version. On le dit ensemble. « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi ». Et ça, c'est... En fait, il faut que tout ce qui est plan de destruction, de ténèbres, parce qu'il y en a, hein, chacun de nous, on a confronté la destruction et la mort. Et je crois que nous, les femmes, on est spécialement aux premières lignes. Hein. Je ne sais pas, parce que justement, on est porteuses de vie, on confronte la mort, mais il faut voir. Hein, la mort dans la santé, la mort dans les finances, la mort dans les relations de couple. On confronte la mort. Moi, je confronte la mort dans certaines situations d'élèves actuellement. Je peux vous dire, je confronte la mort. Et je confronte, mais j'y vais avec les armes, quoi, hein. Que les plans de destruction de ténèbres ne trouvent en nous rien avec lequel s'accorder. Jésus a dit, le prince de ce monde n'a rien en moi. Jésus a dit, le prince du monde n'a rien en moi. Il faut que chacun de nous, on puisse dire, on s'aligne avec Jésus, le prince du monde, le prince qui a des tas de plans de mort, il puisse ne rien avoir en nous. Ça veut dire que notre âme, l'esprit ok, et l'âme complètement alignée avec l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? L'esprit, il doit mener la barque. Et l'âme, elle est soumise à l'esprit. Ça veut dire pensée renouvelée, sentiment consacré, la volonté soumise. Tout ce processus-là, il faut que... Et je pense même qu'il y a un temps d'accélération. Il faut absolument qu'on soit débarrassé de toute fatalité, de toute désespérance, de toute crainte. Et je peux vous dire que notre culture est imbibée de la fatalité et de la désespérance. Là, en seconde, je vais lire Zola. Et Zola, c'est le naturalisme. Naturalisme, ça veut dire que parce que tes parents ont fait ça, toi, tu vas faire ça. Naturalisme, déterminisme, vous savez, c'est que du mensonge tout ça. Et nous, on confronte ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc il faut en être conscient, il faut, mais déjà que nous, on soit débarrassés de ça. Si on va être porteur de vie, et Dieu veut qu'on soit un peuple porteur de vie, eh bien, il faut que nous-mêmes, ça commence par nous, on soit absolument débarrassés de ça. Si on veut dire que notre France et les projets de destruction, parce qu'il y a des projets de destruction, on le sait, en 2012, il y a des projets de destruction, des projets de division, de rébellion, d'anarchie, de révolte, enfin tout ce que vous voulez, il y a ça. Quel est le peuple qui va se lever et qui va dire non, si ce n'est nous ? Mais nous, il faut déjà qu'on soit absolument ajusté avec la parole et qu'on connaisse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que la France rentre dans sa destinée en Christ. Le roi de la France, c'est Christ, point final. Et qu'on soit absolument déterminé à ça. C'est pour ça que les gens, étant jeunes pourris, je fais la pub pour la semaine prochaine, je crois que c'est vraiment important, parce qu'on va certainement, bon, peut-être prier pour nous, nous débarrasser de tout ce bazar de mort qui reste en nous, dans les temps de jeûne et prière, mais aussi certainement intercéder pour le pays. Je crois qu'il y a vraiment une dimension nationale dans ce qui va être vécu, dans les temps de midi, comme dans le tabernacle du vendredi soir. Il y aura une dimension nationale. On se tient comme sacrificateur pour une nation, et on peut faire la différence. les Juifs, ils étaient soumis à un décret de mort de la part d'Aman. Esther s'est levée. Alors attention, c'est pas Esther toute seule, c'est Esther, Mardoché et toute une communauté qui s'est levée avec elle. C'est une dimension communautaire. Esther, si vous voulez, c'était la pointe de la flèche, mais il y avait tout le monde derrière. Hein. Et puis, elle était dans l'amour du Père, elle connaissait le Père à travers Mardoché, elle était enracinée dans la sécurité de l'amour du Père, et puis elle connaissait Dieu de très près. Hein. Alors, pour la petite histoire, Hadass, son nom hébreu, c'est Hadassa, qui veut dire myrte. Et puis, myrte, les commentateurs juifs disent que myrte, la myrte a des petites feuilles comme des yeux. Donc, Esther, c'est celle qui voit. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Vous voyez, elle a vu la stratégie de Dieu pour vaincre Amalek. Elle a vu. Et nous, on est un peuple prophète, on voit les choses, on est appelé à voir. Et ensemble, on se tient comme une Esther. Alors par contre, il y a une chose quand même au programme par rapport à ça, c'est que pour accéder à la victoire sur Amalek, on doit passer, alors là, c'est pas drôle, hein. Désolé, mais c'est au programme, on doit passer par la mort. Alors la mort, ça veut dire... Si vous voulez, dans notre âme, il y a des tas de concepts, de pensées, de conceptions, des tas de choses, des cultures, des comportements. Et puis, il y a des choses qui doivent mourir dans tout ça. Et on a l'impression que c'est nous, que ça fait tellement partie de nous, c'est nous. Et Dieu dit non, c'est pas nous. Il y a un verset dans Psaume 45, « Oublie la maison de ton père. » Oublie. C'est-à-dire, oublie l'héritage culturel, familial, tout ce qui est opposé à la culture biblique, oublie-le. Alors nous, imbibé de culture grecque, par exemple, hein, de fatalisme et tout ça, il faut oublier. Oublie la maison de tes pères parce que le roi porte ses désirs sur ta beauté. Parce qu'il est ton seigneur, rends-lui hommage. Donc oublie. Et puis dans oublier, il y a aussi quelque chose de la mort. Esther, elle a dû passer par cette mort des trois jours de jeûne. Là, hein. C'était une mort. Et puis même avant même qu'elle fasse ces trois jours, elle a dit « si je dois périr, je périrai ». Donc on a une confrontation de mort et il y a une mort. Parce que la troisième partie, donc ils l'ont vaincue par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à la craindre la mort. Alors cette troisième partie du verset, souvent, enfin moi pendant des années, je me dis bah oui ça c'est les martyrs, c'est pas pour nous, c'est pour les Coréens du Nord, c'est pour les chrétiens d'Irak, c'est pour les autres quoi. Hein. Nous martyrs, on a eu ça avec les Huguenots, mais nous on n'est pas trop concernés par le martyr. Mais en fait je crois qu'il y a une autre dimension. Ceux qui n'ont pas aimé, en grec, c'est ils n'ont pas aimé leur psyché, leur âme, jusqu'à la mort. En fait, c'est accepter que notre âme passe par la mort. Il y a des choses même légitimes auxquelles on tient énormément, et ça doit mourir. Des conceptions, des projets de vie, des rêves de vie, et ça doit mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après, il y a une résurrection. Mais c'est vrai qu'il y a une phase de mort. Parfois, notre âme, on est attaché à des choses, et à Malek, hein, la chair, en plus, il y a de la chair, parfois, elle se revêt de choses extrêmement séduisantes, extrêmement gentilles, mais c'est quand même la chair, c'est quand même opposé à la connaissance de Dieu, et ça doit mourir. Il y a des choses en nous qui doivent mourir, et parfois même des choses très légitimes. Isaac, l'attachement d'Abraham pour Isaac, c'était absolument légitime, il a dû y renoncer. Donc, il y a aussi un passage de mort, et le Seigneur sait très très bien comment nous faire mourir, nous, chacun, individuellement, dans notre petite, ce qui connaît nos caractères, mais on doit mourir. Mais après la mort, alors là c'est fabuleux parce qu'après la mort, eh bien il y a la victoire. Je vais vous lire un petit poème parce que je suis prof de français. Huguette, tu le connais déjà. Hein. Mais il parle de la mort du moi et ce que ça fait. Alors c'est Marie Noël, une poétesse française, une femme. Et puis elle nous a dit, ce moi-même. Si las, si lourd, que j'avais la nuit et le jour. Je l'ai par terre abandonné, et je vire, et je vole, gai comme un papillon nouveau-né. Rien n'est, rien ne veut, rien ne suit. De n'être plus, de n'être rien, je ris, et nul ne me retient de rire à tous les vents, légères, plumes sans nid, graines sans air. Ô Père, je ris d'être morte. Ça, c'est la mort de la chair. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'on est bien. Parfois, c'est terriblement pesant, lourd, pénible. Pendant des années, moi, j'ai traîné une tristesse et je pensais que c'était moi, la tristesse. C'était une partie de moi. Anne, elle a un côté profond, triste. Je trouvais même que c'était presque spirituel, cette tristesse. C'était bien. Vous voyez, Amalek, il se drape de vêtements pas possibles. C'était pas mal. Et puis, par le prophétique, il n'y avait pas si longtemps que ça, le Seigneur a dit, je vais décoller de toi cette tristesse. Ah ouais. Ah ouais. Et parfois, le Seigneur, il décolle la tristesse dans des temps d'onction, de joie, de rire. Et parfois, il la décolle dans des temps de fournaise terrible. Parce que dans les fournaises, eh ben, d'abord, il est avec nous. Et en plus, il brûle tous les biens. Alors les fournaises, accueillons-les hein, comme un sujet de joie, dit la parole. Les grosses fournaises. Et parce que le Seigneur fait une œuvre glorieuse dans la fournaise, il nous libère. Donc après tout ça, eh bien, il y a la joie. Et la joie de Pourim, elle est fabuleuse. La joie, parce qu'on a, avec Dieu, on a annulé tous les décrets de mort qui sont sur nous, sur nos familles, sur notre communauté, sur nos villes. On annule tout ça. Il a effacé l'acte de condamnation. Il a cloué en spectacle. Il y a une joie qui sort de là. Et j'ai vu dans Esther 8 et 9, vous avez 8 fois le mot joie. 8 fois, ça revient. 8, c'est le signe de la résurrection aussi. Hein. Et il y a la joie, ce n'est pas une joie individuelle, c'est une joie collective. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au tabernacle vendredi prochain. S'il n'y a pas une dimension de joie, moi, je crois qu'il y aura quelque chose. Il y a la joie de la ville. La ville entière était en joie. Et il y avait des festins. Même que les Juifs, ils boivent même beaucoup au Pourim. Il y a des vins vieux, il y a des festins, il y a des fêtes, il y a des échanges de cadeaux. Et on pense aux pauvres, très important, on pense aux pauvres. Et en plus, alors là, c'est le top du top. On règne, mes amis, on règne. On règne. Esther, Mardoché était donc Esther, elle était reine. Et Mardoché, il a été élevé en dignité. Et pendant, il paraît que c'était une époque extrêmement prospère pour les Juifs à l'époque. Mais en fait, toute la Perse est au bénéfice de l'élévation de Mardoché. Hein. L'épouse de Christ, elle est appelée à régner sur la terre avec beaucoup de joie. Vous voyez, Apocalypse, il y a une dimension de joie dans Apocalypse. C'est fabuleux. C'est une joie extrême. Alors, le programme, eh ben, il est là. Je résume, hein. On l'a vaincu, l'accusateur, les pensées de ténèbres et tous les serpents qui sifflent sur nos têtes. On l'a vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et parce qu'on a accepté de passer par la mort de l'âme. Hein. Et derrière, le programme, c'est le gouvernement. Alors, il y a un super verset qu'on va en finissant, qu'on va lire ensemble. On parlait de la grâce, hein, Laetitia parlait de la grâce, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à travailler dans la grâce. Oh là là, dans tous ces versets. Oups. Oui, c'est Romains 5, 17, tu peux le projeter, Déborah, on va le lire ensemble. Romains 5, 17, voilà. On va commencer à partir de « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Ils régneront dans la vie. Et le don de la justice, ça fait 3 ans qu'on le travaille. Moi, je vous propose maintenant qu'on découvre qu'est-ce que ça veut dire l'abondance de la grâce. Il y a quelque chose de phénoménal là-dedans. Je rappelle le dernier verset de la Bible. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je crois quelque chose de très fort. Je crois que le témoignage de Laetitia, ce n'est pas anodin que ce soit aujourd'hui. Il y a quelque chose de très fort dans la grâce. Il y a une abondance, il y a une profusion, il y a une richesse, il y a quelque chose d'extrêmement rempli de sève dans la grâce. On peut le lire ensemble ? Ou peut-être avec nous, au lieu de dire « ceux », on dit « nous ». Nous qui recevons l'abondance de la grâce et du don de la justice, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Encore une fois, nous qui recevons l'abondance de la grâce et du don de la justice, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est le programme et c'est la grande fête de Pourim. On renverse les plans de destruction de l'adversaire, on règne, on est joyeux et on fait la fête. Amen. Ça vous va comme programme? Voilà. Peut-être qu'on va peut-être prier alors. Hein, parce que, voilà. Cet esprit, on te donne le droit, je m'exprime pour tous mes frères et sœurs, mais on te donne le droit de mettre en lumière toutes les zones de notre âme qui ne sont pas du tout évangélisées, celles qui ont besoin absolument d'être irriguées de ta parole, de s'aligner avec ta parole. Dans ces temps où tu nous alignes, tu nous ajustes, tu fais la grande inspection générale, eh bien, Seigneur, on accepte d'être ébranlés dans tout ce qui n'est pas en accord avec toi, Seigneur. Toutes les zones de notre âme, tu connais toutes les chambres obscures où il y a des tas de craintes tapis au fond, là, des tas de choses pas en règle. Seigneur, mais fais la lumière. Tu es un Dieu de lumière, viens faire la lumière et donne-nous le vouloir et le faire, qu'on soit d'accord pour dire ta parole, pour plaider le sang là où il y a besoin, pour libérer le pardon là où il y a besoin, comme on a eu tous les messages sur l'offense, qu'on soit vraiment en accord avec toi, qu'on applique la puissance de ta parole partout dans tous les domaines de notre vie où il y a besoin, qu'on évangélise toutes ces profondeurs de l'âme pour qu'on puisse dire comme Jésus, le prince de ce monde n'a rien en nous, il n'a rien en nous. Et qu'après cette phase de mort, de travail, de traitement en profondeur, après ce temps de mort, on puisse connaître cette joie extraordinaire de Pourim et qu'on puisse ensemble faire la fête et aussi qu'on puisse gouverner, parce que tu veux une église qui gouverne avec toi, qui gouverne sur cette terre, qui gouverne, qui dit les décrets de l'Éternel, et qui ce seront des décrets d'avenir et d'espérance, pas des décrets de mort. Seigneur, que plus rien en nous ne s'aligne avec les projets de mort de l'adversaire, que plus rien ne puisse, qu'il n'y ait plus d'écho possible. Seigneur, on te demande, travaille-nous toute la semaine, tu nous travailles, tu nous remues dans tous les sens, tu ébranles tout ce qui est mal fondé, mais on veut s'aligner avec toi. Amen. Amen.